Bienvenue à bord.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord. Notre invité dans ce magazine, Olivier Le Carrère, auteur d'un livre sur l'histoire des tours du monde. Nous allons nous intéresser à trois d'entre eux. Le premier qui s'est lancé vers l'Est, celui de Cook par les Trois Caps et celui de Nicole van de Kharkov qui a duré 7 ans.
Le voyage de Nicole, commencé toute seule, se terminera à trois avec une petite fille.
Reportage sur 4 sexagénaires qui s'apprêtent à traverser l'Atlantique à la rame, dont 3 qui n'ont jamais fait de transat à bord d'un bateau de 8 mètres collé serré.
C'est un espace de vie pour 2 personnes qui, en fin de compte, ne permet de dormir qu'avec une seule personne puisque ça se termine en étrave. L'espace est très limité.
Gwendal Jaffry, vous allez nous parler d'un acteur américain célèbre.
Sterling Hayden, qui était plus à l'aise sur le pont d'un bateau que devant les caméras.
Et Jean-Michel Guénier, d'un livre de Maud Fontenoy.
Oui, nous allons parler de La mer et les océans pour les nuls, un livre qui vient de sortir dans cette fameuse collection et qui traite vraiment de tous les enjeux autour de l'océan pour aujourd'hui et j'allais dire aussi pour les générations futures.
A tout à l'heure, messieurs.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
En 2019, nous fêtons les 500 ans des circumnavigations, depuis celui de Magellan. Olivier Le Carrère est l'auteur d'un livre sur l'histoire des tours du monde. Il commence par nous raconter le premier qui s'est lancé vers l'Est.
C'est un bateau breton qui part de Port-Louis, qui est mené par Jean-François-Marie de Surville, le Saint-Jean-Baptiste. Et alors, c'est un voyage assez particulier parce que il dure très longtemps, beaucoup plus longtemps que les voyages de l'époque, entre 1767 et 1773. En fait, pour une bonne raison, c'est que Jean-François-Marie de Surville a été chargé de différentes missions et il fait une très longue escale dans l'océan Indien, notamment à l'île Maurice, avant de poursuivre ce tour du monde. Mais c'est effectivement le premier tour du monde accompli dans le sens du levant, quoi, en allant vers l'Est.
1772, Cook franchit les Trois Caps.
Oui, alors ça, c'est une grande nouveauté parce que la plupart des voyages précédents étaient passés par le détroit de Magellan. Et on fréquentait encore assez peu le Cap Horn et on fréquentait très peu les hautes latitudes, c'est-à-dire en dessous de 40 degrés de latitude sud. Et Cook a été le premier à faire une exploration vraiment méthodique de ces hautes latitudes, s'approchant même souvent du continent antarctique. Il s'est trouvé à plusieurs reprises bloqué par les glaces. Il est allé jusqu'à 70 degrés de latitude sud, ce qui est considérable, surtout à cette époque où c'était des zones qu'on connaissait très mal et pour lesquelles on était très mal équipés. Et donc, il a fait un tour du monde tout à fait remarquable qui pourrait ressembler d'une certaine façon au tour du monde que font les coureurs modernes qui descendent, qui passent très au sud de Bonne-Espérance, puis très au sud de l'Australie et qui reviennent ensuite par le Cap Horn. Et c'était quelque chose de tout à fait remarquable. Et je pense que Cook a montrait dans un voyage comme ça qu'il avait vraiment une compétence et une façon de mener son équipage qui était assez en avance sur son temps.
Casa não, vivo na maré. Ela me leva a você e onde eu quiser. Ele pode me acalmar, como não pode ninguém. Eu não tenho casa não, vivo na maré. Eu não tenho casa não, vivo na maré. Ela me leva a você. Estrelas caem rosas no meu pé.
Tom Lenena, Viva no Mare, le choix musical de notre invité que nous allons retrouver juste après Gwendal Jaffry, le rédacteur en chef du Chasse Marée, la revue de la culture et du patrimoine maritime, partenaire de ce magazine qui va nous présenter maintenant un acteur américain célèbre qui aurait rêvé d'être marin.
Bienvenue à bord.
Gwendal, bonjour.
Bonjour.
Un acteur qui se sentait bien seulement sur le pont d'un bateau.
Sterling Hayden. Alors Sterling Hayden, tout le monde qui a vu des films des années 40, 50, 60 films hollywoodiens le connaît forcément. C'était le plus beau blond de l'époque. C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'on l'a recruté pour des films. Sauf que Sterling Hayden, il ne rêvait pas du tout d'Hollywood. Ça lui plaisait pas tant que ça. Ce qu'il aimait, c'était la mer et les bateaux. Et ça commence très jeune, puisque né en 1916 dans le New Jersey, pas très loin de New York, son unique loisir, son plaisir, c'est de regarder ce qui se passe sur l'eau, dans la baie, autour du port. Parce que, enfant, Sterling Hayden s'ennuie. D'ailleurs, quand son père, l'histoire dit que quand son père décède, quand il a 9 ans, eh ben, il est finalement pas très triste. Son goût, ce sont les bateaux, ce sont également les livres. Et un tout petit peu plus âgé, il est adolescent, à Boston, il va rencontrer un monsieur qui s'appelle Warwick Tompkins, quelqu'un qui aura de l'importance dans sa vie, on le verra plus tard, écrivain et marin. Et quand Sterling Hayden voit Warwick Tompkins travailler à bord de son bateau, il se dit « c'est ça que je veux faire plus tard ». Entre-temps, il va quand même réussir à être marin. Il va notamment être marin à bord de plusieurs bateaux, notamment des bateaux de pêche et ces fameuses goélettes de Gloucester où on travaille à bord de Doris. Et ce métier de marin, il le découvre notamment très dur. Et Sterling Hayden, qui a écrit aussi sur ce métier de marin, on va lire un petit extrait d'un de ses livres où il explique « Dos au vent, les hommes sont arc-boutés, quasiment pliés en deux. Des plaques de glace gonflent leurs vareuses en caoutchouc noir. Jambes épaisses, poitrine épaisse, crâne épais, endurcis par l'expérience du monde. Comment pourrait-il supporter une telle vie autrement ? Ce matin, il fait moins 10 degrés sur le versant du Rouf balayé par les vents et pourtant il travaille à mains nues, des mains rouges plissées, déchirés par des éclats de fils d'acier, des couteaux mal manipulés ou des arêtes dépassant des entrailles exsangues du poisson. » Sterling Hayden, c'est cette très belle prose et pourtant, il va devoir attendre un tout petit peu avant d'en vivre parce qu'il va devenir acteur. Il navigue et puis un jour quelqu'un lui dit « mais si tu veux gagner de l'argent facilement, va à Hollywood ». Sterling Hayden va être acteur, il va tourner de nombreux films, notamment Johnny Guitar que la plupart d'entre nous connaissent, et cet argent qu'il va gagner, mal gagné selon lui, va lui permettre d'acheter de beaux bateaux, de très beaux bateaux, notamment une goélette Wanderer avec laquelle il va beaucoup naviguer, à laquelle il va même enlever ses enfants de peur qu'on lui en retire la garde au moment où il se sépare de son épouse. Et puis à la fin de sa vie, Sterling Hayden, c'est aussi une vie parisienne puisqu'il va vivre une dizaine d'années quai Conti à Paris à bord d'une péniche. Enfin, ce rêve de vie qu'il avait découvert avec Warwick Tompkins, écrire et naviguer, il le retrouve à Paris. Cette vie va se terminer pour autant en Californie, au milieu des années 80, et Sterling Hayden laisse derrière lui des films qu'il n'aimait pas vraiment. Par contre, il laisse aussi derrière lui deux très beaux ouvrages que je vous conseille de lire. Wanderer, qui raconte sa vie, et l'incroyable Voyage qu'il a mis 10 ans à écrire, un livre absolument fantastique.
Merci, Gwendal Jaffry.
Bienvenue à bord, le magazine de la mer.
Olivier Le Carrère est notre invité dans ce magazine pour nous parler de l'histoire des tours du monde. Nous allons nous intéresser maintenant à celui de Nicole van de Kerckhove.
Nicole van de Kerckhove, qui elle a été, je dirais, la grande pionnière des femmes au long cours. C'est-à-dire que Nicole a été la première femme à se faire construire un bateau pour elle-même, pas pour suivre un compagnon ou un mari. C'est elle qui a décidé de se faire construire son propre bateau et de partir de son propre chef. Et donc, elle est partie en fin de l'année 1968 avec son petit bateau en acier qui s'appelle Esquilo, qui est un bateau de un peu moins de 10 mètres construit en Hollande. Et elle a fait un tour du monde extraordinaire. C'est quelqu'un qui aime la mer et le voyage, qui ne voulait pas battre de record, qui ne voulait pas forcément s'inscrire comme étant la première femme à faire un tour du monde en solitaire. Donc elle a eu des équipiers parfois elle était en solitaire. Et elle a fait un tour du monde en 7 ans, et à la fin de son tour du monde, elle a dit J'ai fait un beau tour du monde, mais 7 ans, c'est peut-être pas assez. J'ai eu l'impression d'être toujours pressé. Et pour l'anecdote, elle a suivi un parcours tout à fait particulier, puisque quand elle est arrivée au début de son tour du monde, elle arrive aux Antilles, ensuite elle passe le canal de Panama. Donc on est en 1970 à ce moment. Elle passe seule le canal de Panama, elle continue jusqu'aux Galapagos, parce qu'elle rêvait de voir les Galapagos. Elle y passe plusieurs mois de bonheur parfait. Aux Galapagos, elle décide de changer, de revenir, parce qu'elle n'a pas envie de laisser sa famille, ses parents sont déjà âgés, sa famille trop longtemps seule en Europe. Elle décide de revenir, elle revient donc à Panama, elle repasse le canal dans l'autre sens, donc ça fait 2 passages du canal la même année. Et puis, une fois de l'autre côté du canal, du côté atlantique, en fait, elle repasse le canal dans l'autre sens, donc une 3e fois, ce qui lui vaut quelques commentaires ironiques des employés du canal. Et en fait, l'histoire, c'est que juste avant de repasser le canal pour rejoindre l'Atlantique, elle a fait la connaissance d'un jeune Américain, Don, qui navigue en solitaire lui aussi sur un petit bateau. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et elle s'est dit « c'est pas possible que je reparte sur l'Atlantique alors que lui va dans le Pacifique », d'où sa décision de faire demi-tour. Elle passe le canal 1/3e fois, elle arrive à retrouver Don un petit peu par miracle qui est à ce moment dans les Galapagos et ils décident de ne plus se quitter, ils font route commune vers la Polynésie à 2 bateaux, donc en se suivant l'un et l'autre. Et puis en Polynésie, ils décident de vendre l'un des 2 bateaux, celui de Don, et de continuer ensemble sur l'Esquilo. Et pour pimenter un peu la situation, ils ont un enfant en Polynésie, ce qui fait que le voyage de Nicole commencé toute seule se terminera à 3 avec une petite fille.
Partir autour du monde 1519-2019, 500 ans de circumnavigation par Olivier Le Carrère, c'est aux éditions Glénat.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
On passe à la voile avec l'arrivée des derniers bateaux dans la Transat Jacques Vabre, Transat en double entre Le Havre et Salvador de Bahia au Brésil. On connaît le podium dans les différentes catégories. Gilles Lamiré et Antoine Carpentier l'ont emporté en multi-50, on vous en parlait le week-end dernier. En classe 40, c'est Yann Lipinski et Adrien Hardy qui s'imposent. Et en IMOCA, les bateaux du Vendée Globe, Charlie Dalin et Yann Eliès montent sur la plus haute marche du podium. Le Vendée Globe, justement, Damien Seguin sera le premier skipper handisport à prendre le départ l'année prochaine. Damien Seguin, qui a terminé à la 14e place de cette Transat Jacques Vabre avec son coéquipier Johan Richaume. Une petite déception pour le double champion paralympique à la voile qui avait des ambitions plus élevées. Mais c'est un pas de plus vers son but ultime, le Vendée Globe, Fabrice Rigobert.
Année après année, il efface les difficultés, prouve sur l'eau que son handicap, il est né sans main gauche, n'est finalement pas un obstacle. Médaillé d'or à Athènes, d'argent à Pékin, de nouveau en or à Rio, Damien Seguin a poussé la porte d'entrée de la course au large chez les Valides il y a 10 ans. Il s'y est installé.
Je fais les choses tranquillement, à mon niveau, à mon rythme. C'est compliqué, à IMOCA, c'est grand, c'est physique, mais après, quand on fait les choses simplement, à comprendre le bateau et à comprendre un peu la régate, comment ça se passe, c'est pas plus compliqué qu'un autre engin. Donc, quand j'ai dit qu'il y a quelques années que mon objectif ce serait de faire le Vendée, il n'y a pas grand monde qui croyait, c'est comme quand j'ai dit au début que je voulais être champion olympique, c'était pareil, mais après je me suis donné les moyens d'y arriver. Voilà, moi je suis très serein par rapport à ça et je suis hyper content de cette Jacques Vabre, même si voilà, sportivement on aurait préféré faire un petit peu mieux, mais c'est une pierre de plus vers le Vendée.
6e de la route du Rhum en solitaire il y a 1 an, Damien Seguin sait qu'il ne gagnera pas le prochain Vendée avec son bateau d'ancienne génération, mais il se donne toutes les chances de pouvoir bien figurer. Johan Richaume, son coéquipier, n'a aucun doute.
Vendée Globe, c'est un événement où il faut aussi beaucoup de fiabilité et c'est quelqu'un de technique, donc il sera capable de bien préparer son bateau et de bien le gérer pendant l'événement. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir Damien à l'arrivée du Vendée Globe, ça c'est sûr.
À 30 ans, Damien Seguin emprunte une voie que de nombreux athlètes handisport aimeraient suivre, un parcours exemplaire que le Vendée Globe ne manquera pas de sublimer.
Jean-Michel Guigné va maintenant nous présenter un livre intitulé « La mer et les océans pour les nuls ».
Bienvenue à bord.
Jean-Michel, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Un livre de Maud Fontenoy.
Oui, alors dans la série des ouvrages pour les nuls, vous savez, il y a les fameux « Le rock pour les nuls »,« La bourse pour les nuls »,« Le piano pour les nuls ». Eh bien, la navigatrice Maud Fontenoy, aujourd'hui à la tête d'une fondation, vient de sortir un livre intitulé « Les mers et les océans pour les nuls ». Quand on sait l'importance de la mer et de ses ressources pour les générations futures et les énormes enjeux qui poussent aujourd'hui la plupart des pays à s'y intéresser, l'éclairage qu'apporte ce livre est vraiment bienvenu. Et disons-le tout de suite, si ce bouquin a pour objectif de familiariser le lecteur avec les océans, le but est atteint. Il n'est pas question ici de s'appesantir sur les exploits de navigateurs, mais bien de faire prendre conscience au lecteur de la fragilité des océans. Berceau de la vie sur Terre, depuis les débuts de l'humanité, l'océan est synonyme d'inconnu mais aussi d'aventure. Depuis les hypothèses de l'apparition de l'eau sur Terre, on y découvre l'histoire de la conquête des mers et des océans, leur poids sur la géopolitique mondiale et l'enjeu de leur préservation. On y évoque aussi le droit de la mer, la vie sous-marine et tout ce qu'elle peut nous apporter, et notamment comment protéger les océans. Alors, quand on sait que la moitié de l'oxygène que l'on respire ne vient pas des forêts mais des océans, qu'il y a plus de 22 000 médicaments qui sont issus du milieu marin et que 3 milliards de personnes sur Terre ne mangeraient pas de protéines sans la mer, ça donne vraiment une idée de l'enjeu. Maud Fontenoy nous entraîne à la découverte des mers et des océans dans un livre qui est toutefois ponctué de quelques récits de moments intenses vécus en mer. Et ce plaidoyer nous rappelle que sans la Grande Bleue, le visage du monde et de nos civilisations serait bien différent et qu'il est aujourd'hui plus que jamais urgent de protéger cette richesse de notre planète. Alors c'est publié chez First Edition, ça s'appelle « La mer et les océans pour les nuls » et ça coûte la modique somme de 23 euros, je crois même que c'est 22,90 €.
Merci Jean-Michel Guignet. Dans un instant, vous allez nous présenter un navigateur.
France Bleu, bienvenue à bord.
Quatre sexagénaires s'apprêtent à traverser l'Atlantique à la rame. Ils se sont entraînés il y a quelques jours à La Rochelle. Parmi eux, trois novices qui n'ont jamais fait de transat. Ils vont rallier la Martinique. Pierre Marsa a voulu savoir si c'était bien raisonnable à leur âge.
Qu'est-ce que c'est qui serait déraisonnable, c'est de ne pas aller au bout de ses envies?
Ils ont entre 60 et 72 ans. À les voir se démener sous la pluie, à nettoyer le pont et vérifier le dessalinisateur qui rendra buvable l'eau de mer, on leur donnerait la moitié de leur âge. Bernard Gerbeau est le doyen de l'équipe.
On peut. Et pour ça, il faut se préparer. Donc, notre idée, c'est de militer pour un bon vieillissement. À savoir rester éveillé intellectuellement, avoir une hygiène de vie, faire du sport, surtout du sport. Et puis, vivre dans des réseaux sociaux. On ne vit pas seul en vieillissant. Donc, tout ça permet de bien vieillir.
Le bateau à rame mesure 8,60 m, ni moteur ni voile, juste des panneaux photovoltaïques pour assurer la navigation. Ils seront 4 à bord pendant un mois et demi. Pas de place perdue possible. Philippe Michel, 68 ans.
Alors là, bon, on est sur ce qu'on appelle la cabine avant, parce qu'on rame, mais toujours le dos tourné à l'avant. C'est un espace de vie pour deux personnes, qui en fin de compte ne permet de dormir qu'avec une seule personne, puisque ça se termine en étrave. L'espace est très limité.
Après 3 jours d'entraînement à La Rochelle, l'équipage est fin prêt. Ce sont les derniers réglages. Philippe Berquin, à l'origine du projet, il l'a déjà fait en 2017.
On est sorti, on a validé du matériel, parce qu'il y a encore de l'électronique à valider. Il y a des stabilisateurs à faire fonctionner pour être certain que tout va bien. On a aussi fait un exercice de retournement du bateau dans le port avec une grue, tout simplement pour voir ses réactions quand il est à l'envers, parce qu'un bateau comme ça, ça peut se retourner à cause des vagues, dans les tempêtes.
Le bateau à rame a été baptisé à l'abordage, comme un pied de nez à la vieillesse. À l'arrivée en Martinique, il sera vendu au profit d'une association médicale.
Départ prévu le 10 décembre.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Pour terminer ce magazine, Jean-Michel, vous nous présentez le navigateur Jean Ribaud.
Et oui, Jean Ribaud. Alors on remonte un petit peu dans le temps, puisque Jean Ribaud, il est né à Dieppe en 1520 et qu'il est mort exécuté par les soldats de l'amiral espagnol Pedro Menéndez de Avilés en 1565 en Floride. Et c'est un capitaine de la marine et un explorateur français. Alors il était huguenot, il fut désigné par l'amiral de Coligny pour aller installer une colonie française pour les protestants en Floride. Malheureusement, après avoir établi une colonie de Floride française lors d'un premier voyage, son escadre de 6 navires est massacrée par les Espagnols lorsqu'il y retourne en 1565. Alors un lycée porte aujourd'hui son nom à Jacksonville en Floride, et chose amusante, l'un des navires de son escadre s'appelait les Poules de Mouton.
Merci Jean-Michel Gagné. C'est la fin de ce magazine que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bienvenue à bord. À très bientôt. Au revoir.